9h, 11h, les petits loups sur Parenthèse, la seule radio 100% Talk Famille.
Et nous parlons jeux vidéo, cyberdépendance ce matin, encore pendant une heure, hein, dans les petits loups. Moins de 10 ans et déjà accro aux jeux vidéo. Venez nous raconter comment ça se passe chez vous à la maison. Vous avez sans doute des questions. Le petit est accro à sa PSP. C'est embêtant, hein, quand même, quand on a moins de 10 ans. Comment faire? 01 70 62 9000. Nous avons sans doute, la solution et la réponse à vos questions.
Libre parole sur Parenthèse, la première radio 100% Talk Famille. 01 70 62 9000, 01 70 62 9000.
Et nous avons au téléphone Alexandra, 32 ans, qui habite Fontainebleau, qui nous a appelé pour dénoncer son mari qui dit que son mari joue à Tomb Raider avec sa fille de 4 ans et demi. C'est lamentable, Alexandra, c'est lamentable.
Juste... Non, je dis pas ça, parce qu'après il va me tuer et que... Non, je rigole, il va pas m'aimer trop, mais...
Non, possible.
Mais c'est très bien qu'il joue si vous voulez, mais après j'étais en train de réfléchir là, et je me disais que... C'est vrai que pour un petit comme ça de 4 ans et demi, 5 ans, c'est pas le meilleur mode de jeu, en fait, la console, enfin tout ce qui est jeu de télé. Bon, c'est vrai que moi je suis peut-être vieille France, mais je préfère un bon vieux livre, des bons vieux pots de pâte à modeler et compagnie. À faire avec l'enfant, enfin voilà, après...
Oui, mais en même temps, comme le disait Jacques Hainaut, qui est avec nous et qui est journaliste et qui a écrit plusieurs livres, hein, sur la question, la console de jeu comme la Wii, par exemple, hein, sans citer
oui,
de marque.
Oui, on a aussi, nous on a tout chez nous.
Oh là, vous êtes équipés, hein.
C'est la totale, donc là-dessus on a le choix. Mais bon, je sais pas, moi je suis toujours un peu pas réfractaire, mais ça me gêne un peu, pour des enfants petits comme ça, même si on vous dit oui, il y a des jeux qui sont adaptés aux enfants de 3 ans, mais moi quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de me dire oui, mais à 3 ans quand même... On joue pas forcément, enfin il y a d'autres jeux, vous voyez, c'est super sympa de faire des constructions de cubes, enfin de plein de trucs comme ça.
Voilà. Jouer au Capla par exemple, moi j'aime
et
bien.
Ben voilà.
Ouais, c'est sympa
on
le Capla.
Je trouve ça super.
J'adore. Enfin, voilà. Valérie Seknazi qui est psychologue, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission des petits loups où nous parlons de cyberdépendance. Vous avez entendu brièvement, j'imagine, le témoignage d'Alexandra, une auditrice de Fontainebleau.
Alors brièvement, j'arrive là à peine.
Voilà, qui a l'air de culpabiliser un petit peu et de se dire moi je suis vieille France et je préfère jouer à la pâte à modeler avec ma fille plutôt que la console, la Wii, tout ça, ça me pose un problème. Elle se culpabilise un petit peu quand même, Alexandra.
Oh, j'entends beaucoup de culpabilité. Maintenant, c'est vrai que à l'heure actuelle, les jeux sont en partie des cours d'école, des enfants, ça c'est assez généralisé. Donc je pense que c'est aussi un lien entre les enfants, les enfants entre eux actuellement. Bien évidemment, diversifier les jeux, je pense que ce serait la solution. Ce serait pas que ce soit l'unique jeu. Et 4 ans et demi, oui. Papa, Tomb Raider, peut-être c'est vérifier l'âge du jeu.
Ouais.
Non, ça c'est mon mari, mais il a pas 4 ans et demi, il a bientôt 33 ans. Mais après, il y a peut-être aussi un autre paramètre, c'est qu'en fait, comme je travaille dans la recherche de données financières, je suis toute la journée sur Internet.
Ah, il y a peut-être ça aussi, oui.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol et une envie de faire autre chose, vous voyez? Donc, mais je suis d'accord qu'après, on peut très bien jouer aux Princesses Disney sur la PlayStation ou sur
autre
truc, vous voyez? Voilà. Mais je suis d'accord sur la diversité des jeux et des présentations, que ça soit interactif, des personnages. Enfin, je pense qu'il faut leur présenter une palette de jeux différents aux enfants, mais pas qu'une sorte, on va dire.
Jacques Hainaut, vous réagissez comment aux propos d'Alexandra?
Moi, je pense que les jeux vidéo, c'est sûr qu'un enfant qui baigne dans un milieu où ses parents travaillent beaucoup sur Internet, il va avoir une curiosité naturelle qui va le pousser vers les nouvelles technologies. Donc, il faut pas brider cette curiosité. Donc, si l'enfant, il s'intéresse à Internet, il s'intéresse à l'ordinateur, il s'intéresse aux jeux vidéo, il faut le laisser faire. Mais il faut pas qu'il fasse, il faut qu'il fasse autre chose. Ça doit être une activité comme une autre. Il faut qu'il continue à lire, il faut qu'il continue à avoir des activités avec des amis, il faut qu'il continue à peut-être regarder un petit peu la télé s'il y a des choses intéressantes pour lui à la télé, il faut qu'il continue à faire des petits jeux manuels parce que c'est surtout à 4 ans et demi, 5 ans,
c'est beaucoup
en jouant avec des petits objets qu'ils apprennent à découvrir le monde, etc.
C'est l'imaginaire, je sais que c'est très bien.
Et il faut surtout il n'y a aucune contradiction, et il faut qu'à un moment ou à un autre, ils s'ennuient.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Parce que c'est quand ils s'ennuient que justement ils vont faire travailler leur imaginaire,
ouais,
et qu'ils vont vraiment développer leur personnalité. personnalité.
Oui, mais ça, c'est assez.
On a tendance maintenant, les enfants, à vouloir tout le temps les occuper, les activités, le sport, la musique, les échecs. Il faut leur ménager des moments où, paradoxalement, ils puissent s'ennuyer et où ils puissent se retrouver tout seuls. Et moi, je suis ravi lorsque un de mes enfants me dit « mais je m'ennuie là ». Et je dis
« tant mieux ».
Tant mieux, tu vas trouver quelque chose. Et 30 secondes après, en général, il est en train de jouer.
Moi, ça me stresse, hein.
Et il fait, voilà, il faut que ça soit une activité. Il faut pas briser leur curiosité, mais il faut l'encadrer pour que ça ne soit pas quelque chose qui prenne le dessus sur leurs deux activités, surtout à cet âge-là, ils ont plein d'autres apprentissages à découvrir, à faire. Mais il faut trouver le juste milieu entre encourager leur curiosité, parce que peut-être qu'ils vont développer une compétence dans ce domaine, peut-être que pas du tout, peut-être que ça va être juste un feu de paille qu'au bout de quelques semaines, ils vont faire autre chose, mais on sait pas, mais voilà.
Valérie Seknazi, psychologue, il faut me déculpabiliser. Donc quand les enfants s'ennuient, on peut les laisser s'ennuyer un peu alors. Parce que ça me stresse. Hein.
Tout à fait.
Ça dure jamais longtemps. C'est vrai que moi c'est pareil, je réfléchis à ça. Ils se disent oui, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, mais en fin de compte, en réfléchissant deux secondes, après ils trouvent un truc à faire ou même juste se poser, se détendre. Ma fille elle juste pousse, elle se met sur son oreiller, et voilà.
Mais l'ennui est source de création, d'avancement.
Voilà.
Ils peuvent effectivement faire marcher leur imaginaire grâce à l'ennui. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance, parce que la vie est difficile, alors à se servir des jeux comme des nounous, comme la télé nounou.
Mmh. Ouais.
Ce que je comprends, bien évidemment, parce qu'on rentre du travail, c'est assez difficile. Et donc, dès que l'enfant dit « je m'ennuie », ben prends ta console, prends ta DS et va t'occuper. Mais c'est vrai que, bon, privilégier ces temps d'ennui, je pense que on l'oublie un peu aujourd'hui. C'est comme si on interdisait à l'enfant de s'ennuyer. Il n'aurait plus le droit de s'ennuyer.
C'est vrai. Moi, je l'ai observé également. Hein, lorsque ma fille se met sur sa DS, immédiatement. Alors là, pour le coup, on peut être parti pour 35 ou 40 minutes de jeu, et ça coupe toute communication. Du coup, là, c'est terminé. Hein,
Oui. Alors là aussi, c'est aux parents de s'intéresser, je pense aussi au jeu de l'enfant. Alors pourquoi pas, comme le papa de c'est des moments de partage aussi, jouer avec son enfant. Maintenant, on peut pas jouer tout le temps et leur laisser un peu cette liberté de jouer tout seul, mais s'intéresser effectivement au jeu quand il en parle, écouter, être au courant des jeux auxquels il s'intéresse. Et je pense que c'est important aussi.
Alors ce que
c'est important, puisqu'on rebondit sur les jeux, c'est surtout de pas dénigrer l'intérêt d'un enfant pour une activité. S'il s'intéresse aux jeux vidéo, il faut pas lui dire mais pourquoi tu joues à ça, tu perds ton temps, etc. Il faut au contraire s'y intéresser, dire qu'est-ce qui t'intéresse, pourquoi tu fais ça, essayer de valoriser, de comprendre qu'est-ce qui l'intéresse, parce que si vous lui dites c'est n'importe quoi, il va se braquer et vous risquez de couper la communication.
Or, c'est évidemment,
le but recherché, au contraire, le but c'est de profiter de cette activité pour essayer de nouer un lien avec lui, de montrer qu'on s'y intéresse, que nous aussi on s'y intéresse, qu'on n'a peut-être pas les mêmes compétences que lui, mais qu'on comprend son intérêt. Mais il faut aussi lui expliquer qu'il y a des débordements, lui dire que là, il faut mettre le haut là et dire qu'il y a d'autres choses à faire.
Oui.
Et pour finir, on parlait tout à l'heure de Lara Croft, là j'étais comme je suis devant un ordinateur, j'ai regardé Lara Croft, c'est normalement pour les plus de 12 ans, voire les plus de 16 ans.
Hein. Oui, voilà. Vraiment faire attention à l'âge.
Elle n'a pas à jouer, elle n'a pas à être devant Tomb Raider.
Alexandra.
De ménage, donc.
On est désolé, Alexandra. Merci d'avoir appelé. Mais enfin, bon, là, pour le coup, c'est vrai qu'on vous a un peu plombé la journée.
Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, mais voilà, c'était vraiment juste anecdotique et tout en disant que mon mari fait bien attention, que c'est vraiment. En plus, c'est vrai que c'était vraiment rare qu'il joue à ça. Quand Pauline était là, elle était de passage dans le salon et d'habitude il joue à ça, soit quand elle est à la sieste, soit le soir, donc elle n'est pas là du tout. Donc,
et Pauline qui est petite, hein, on rappelle qu'elle a 4 ans et demi, Pauline réclame un peu de jeux vidéo ou pas encore?
Non, en plus c'est drôle parce que j'ai la semaine dernière notamment, et mon mari qui voulait jouer avec elle et sa meilleure copine qui a le même âge, Disney Princess, et en fait il leur dit vous venez, on va jouer. Elles ont fait non, elles sont parties dans la chambre jouer au Barbie ou à je ne sais quoi, enfin voilà, donc du coup c'est vrai que c'est... Pour l'instant, c'est pas son truc.
Est-ce que votre mari a joué tout seul à la princesse?
Ouais, du coup, oui, je crois que oui, parce qu'il fallait, ça débloquait des personnages, donc du coup, il s'est débloqué ses personnages tout seul, donc c'est bien, il était content après.
Mais parce qu'il y a une identification qui se fait aux parents, vous savez, aujourd'hui, on voit de plus en plus de parents devant des écrans.
Ouais.
Oh, mais alors qu'avant, on les voyait avec des livres, le journal, et c'est vrai que les enfants, s'identifient un peu aux parents et bien évidemment sont plus attirés vers les écrans quand ils voient Donc c'est un peu, voilà, ça va peut-être arriver pour Pauline.
Valérie Seknazi, dans vos consultations, vous avez très souvent, enfin de plus en plus souvent, des enfants qui sont addicts aux jeux vidéo.
Alors addicts, ça va être assez rare parce que alors ils arrivent, les parents arrivent en pensant que leurs enfants sont addicts et puis après on se rend bien compte que je crois que c'est plus les enfants qui c'est plus les parents, je veux dire, qui sont inquiets et qui veulent vraiment se rassurer. Sur l'addiction, sur le côté addictif. Maintenant, c'est assez rare de voir des enfants addicts en cabinet. C'est assez rare.
Bon, et lorsque vous en avez, vous traitez cette addiction comment? Parce que nous avions tout à l'heure Jean-Charles Naebi qui est psychologue et qui est un peu spécialiste de cette question, qui lui observait donc forcément, puisque c'est son centre d'intérêt principal, hein, qui observait depuis une quinzaine d'années maintenant que il avait de plus en plus d'enfants accros et addicts aux jeux vidéo ou à Internet. Lorsque vous avez donc vous ce type de pathologie, vous la traitez comment? Ça se traite assez rapidement?
Oui, relativement, mais j'essaie de mettre tout ça en mots, bien évidemment. J'ai pas mal vu que c'était un refuge pour certains enfants.
Oui.
Un refuge, ils avaient besoin d'un cocon, c'est comme un appel à l'aide à un moment donné. Il n'y a pas de prise de risque, pas de séparation, c'est assez fusionnel. Donc après, voilà, je travaille avec les relations précoces et autour de ces thèmes-là souvent.
Alors quand vous dites cocon et pas trop prendre de risque, Jean-Charles Naebi nous racontait tout à l'heure qu'il y avait des familles où chacun avait son ordinateur et que même pour communiquer d'une pièce à l'autre, hein, d'une chambre à l'autre, on s'envoyait un mail ou un chat, hein. Donc on voit bien l'enfermement dans lequel on peut se mettre et cet isolement qui est dramatique.
Oui, tout à fait. C'est pour ça, les enfants sont lâchés avec un peu, voilà. Je crois qu'il y a c'est vraiment la question de l'éducation, de la contenance des parents. Et à un moment donné, c'est le risque de trop lâcher les enfants et qu'ils se servent qu'ils se saisissent des jeux comme doudou même, comme une fusion quelque chose de plus rassurant. Et voilà, où il n'y a aucune loi qui fait obstacle au désir, il n'y a pas d'obstacle, et l'enfant s'isole. Je pense qu'il faut réellement faire attention à cet isolement et à ce manque de communication, ce lâchage des enfants.
D'accord. Nous allons faire une petite pause. Alexandra, vous restez encore un petit peu avec nous?
Faut que je vous laisse parce que je suis au travail en fait.
Donc, alors, je vais vous repasser.
Vraiment un grand plaisir.
D'accord. Je vais vous repasser le standard et on va vous offrir un coffret de chez Citel Vidéo. Mais avant de vous lâcher, Alexandra, il faut que je vous passe le bonjour de Lucie qui nous envoie un petit message sur le forum. Lucie de Laval qui nous dit je suis heureuse de t'écouter, Alexandra, en direct. Donc,
voilà. Elle est trop gentille parce que justement, c'était elle dont je parlais tout à l'heure. On s'est rencontrés sur le forum hier et on a discuté. Enfin, c'est très gentil. Moi, je lui fais un gros bisou aussi.
Voilà. Ne quittez pas, Alexandra. On vous envoie un petit cadeau.
Merci beaucoup et bonne journée à tous.
Merci. À bientôt. On fait une petite pause dans cette émission et on se retrouve juste après sur Parenthèse Radio 01 70 62 9000 pour témoigner et nous raconter votre expérience avec votre enfant qui est cyberdépendant.
Vous voulez donner votre avis? Intervenez maintenant dans Les Petits Loups au 01 70 62 9000 01 70 62 9000 Parenthèse Radio 9h, 11h Les Petits Loups sur Parenthèse. La seule radio 100% Talk Famille.
Et sur Parenthèse Radio, encore pour 45 minutes, un peu moins de 45 minutes maintenant, nous parlons de jeux vidéo. Mon enfant de moins de 10 ans est accro aux jeux vidéo. Passez-nous un petit coup de fil, tiens, pour témoigner, pour nous poser vos questions. 01 70 62 9000. Appelez-nous maintenant et je vous offre, allez, un cadeau, un coffret de chez Citel Vidéo. Vous aurez le choix entre le Père Castor, Babar, Béatrix Potter, Cédric, Léo et Poppy. Rien de très très addictif quand même, mais enfin vous pourrez le regarder en famille le soir. Donc appelez-nous maintenant 01 70 62 9000 pour gagner maintenant ce coffret de chez Citel Vidéo.
Les Petits Loups sur Parenthèse, l'unique radio 100% Talk Famille.
Et sur Parenthèse Radio, nous sommes avec Valérie Seknazi qui est psychologue, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.
Tout à fait.
Voilà. Et Jacques Hainaut, qui est journaliste et qui a écrit plusieurs livres, notamment Les enfants face aux écrans, édition Pocket, et Les 90 questions que se posent les parents, aux éditions Télémac. Jacques Hainaut, est-ce que vous avez regardé cette émission sur M6? Je crois que ça devait être la semaine dernière, où il y avait un très très long reportage sur notamment les pratiques sexuelles des enfants et cet accès à la pornographie. Alors, je dévie un peu du sujet, mais on en parlait tout à l'heure. Il est frappant de voir des enfants, même quelquefois très très jeunes, hein, aux alentours de 10 ans, avoir déjà vu des choses que certains, même à 40 ans, ont tout juste imaginé.
Oui, bah écoutez, ça c'est le problème d'Internet, c'est que la première fois, un des problèmes d'Internet, c'est que la première fois avec Internet, vous avez une nouvelle technologie, vous avez une technologie qui rabat les enfants vers des images qu'ils n'ont pas sollicitées. Donc il suffit effectivement qu'ils se mettent devant Internet, que l'ordinateur ne soit pas protégé par un logiciel de filtrage, de contrôle parental, et pour que l'enfant reçoive, qu'il y ait des pop-up qui s'ouvrent, hein. Vous parliez des pop-up, ces images surgissantes qui s'ouvrent et puis qui montrent des choses qui ne sont pas de leur âge. Il suffit qu'ils aient une adresse email, ils reçoivent un spam, c'est-à-dire un courrier électronique non sollicité qui va les rediriger vers des images pornographiques. Il suffit, alors le téléchargement illicite est un sport très pratiqué en France, surtout par les jeunes enfants, par beaucoup de jeunes enfants, de préadolescents. Donc ils utilisent des logiciels, beaucoup utilisent encore des logiciels de peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair, d'échange de fichiers entre internautes. Et il suffit qu'ils veulent télécharger même un feuilleton américain qui tout public, grand public, qui ne contient rien du tout, mais ils peuvent se retrouver avec à télécharger un film pornographique, etc. Donc ça peut arriver très très vite. Alors encore une fois, la meilleure solution, c'est d'abord que l'écran, quel qu'il soit, que ce soit l'ordinateur, la télévision, il soit pas dans la chambre, il soit dans le salon, pour que les parents puissent voir ce qui se passe.
Alors c'était effectivement l'un des conseils de notre
psychologue. Et plus largement, l'ordinateur, il faut que vous avez, aujourd'hui, on estime qu'il y a au moins 25% des enfants qui ont la télé dans leur chambre.
Ouais. 25%, c'est énorme. Valérie Skenazy dans votre...
Je pense que c'est plus que ça.
C'est plus que
donc,
ça.
Il faut ouais, vraiment que l'écran soit pas dans la chambre. Il faut que l'écran, quel qu'il soit dans le salon. Il faut ensuite installer des logiciels de contrôle parental.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le béaba, parce que même si c'est pas à 100% efficace, même si on est bien d'accord, ça remplacera pas la vigilance des parents. Il faut que ça soit mis en place. Il faut ensuite, pour tout ce qui est pop-up, on peut aller sur son logiciel de navigation, que ça soit Firefox, Microsoft Explorer. On peut très facilement paramétrer, programmer ce logiciel pour qu'il bloque ces fameuses fenêtres surgissantes. Et puis, il faut aussi, ça c'est valable pour les plus jeunes enfants, parce que après, plus tard, ils savent très bien désinstaller tout ça. On peut aussi programmer le moteur de recherche qu'on utilise, que ce soit Yahoo ou Google, pour qu'il filtre au maximum les images indésirables. Donc, il y a des options de filtrage qui sont déjà disponibles sur les moteurs de recherche, que ce soit Google, etc. Et donc, moi, dans le livre, les 90 questions, tous les parents se posent, téléphone mobile, internet, jeux vidéo, j'explique tout ça.
Oui.
Donc ça marche pas mal. Donc c'est des outils qu'il faut de toute façon prendre l'habitude d'utiliser pour le jour où ils seront efficaces à 100%. Et puis c'est vraiment le minimum à faire. Voilà.
D'accord. Valérie Skenazy, dans votre consultation de psychologue, vous constatez ce qu'on se dit depuis quasiment le début de cette émission maintenant, que les parents sont quand même relativement démunis, hein, face à toutes ces nouvelles technologies, et qu'ils sont un petit peu, ils font un peu la course en queue de peloton, hein, les enfants sont devant.
Oui, c'est assez difficile, effectivement. Ben là, en plus, je fais des expertises d'enfants victimes, donc souvent, il y a des auteurs qui sont enfants eux-mêmes. Mais c'est vrai que les parents ont tendance à adultifier l'enfant, comme s'il était en mesure d'oser le jeu. Donc, effectivement, par rapport à quand ils étaient eux-mêmes enfants, c'est complètement différent, ils se sentent dépassés, puis ça en fait des enfants sages, hein, des enfants qui dérangent pas finalement.
Ouais. C'est une vraie solution de facilité.
Un petit peu, mais ce qui peut se comprendre, hein, par la vie actuelle qui est assez difficile, et puis culpabilise beaucoup, alors mettre un terme au plaisir et frustrer l'enfant, ils se sentent assez coupables. Alors que ça permettrait à l'enfant de prendre davantage de plaisir dans le temps. La frustration, c'est pas une punition. Et je pense que voilà, qu'il devrait encore une fois les parents se faire plus confiance et s'écouter et voilà. Mais bon, c'est du travail.
Alors sur l'antenne de Parenthèse Radio, nous accueillons Florence. Bonjour Florence.
Bonjour.
Merci de nous appeler. Vous avez été la plus rapide à nous téléphoner ce matin au 01 70 62 9000. Donc vous emportez un coffret de deux DVD chez Citel Vidéo. Vous aurez le choix entre tout un tas de dessins animés plutôt sympas et oui, pas très addictifs. Hein. Je disais, rassurez-vous, vous n'allez pas être accro à Léo et Poppy tout de suite.
Ah oui.
Alors vous habitez en Indre-et-Loire.
Oui, c'est ça.
À quel endroit ?
J'habite à Évreux-sur-Inde, à côté de Tours.
À côté de Tours, d'accord. Vous êtes maman de deux enfants ?
Oui.
De quel âge ?
Alors, ils ont 4 ans et 6 mois.
Ils s'appellent comment ?
Benoît et Nathan.
D'accord, bon. Bonjour à Benoît et Nathan. J'imagine que la thématique des jeux vidéo, pour vous, est un peu éloignée, même si...
Oui, c'est un peu éloigné, mais bon, c'est vrai qu'on y pense quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de tentations... pour les petits, même très jeunes, je trouve. Donc, bon, moi, c'est vrai que j'essaie de repousser, en tout cas, le plus possible. Hein. C'est pas encore le cas pour Benoît, bien
oui,
sûr,
oui,
qui a
oui.
4 ans. Mais bon, je pense qu'effectivement, il y a plein d'autres jeux très, très intéressants pour les aider à développer leur imagination. Et que quand ils commencent à être un peu accros à tous les jeux vidéo, ça va très vite. Donc, autant, oui, repousser... le plus possible.
Ouais, on sent chez vous la vigilance. Ça vous intéresse, vous, les jeux vidéo ? Vous essayez de vous pencher un peu sur la question ou pour l'instant, ça reste assez éloigné de vos préoccupations ?
Moi, j'avoue que je m'y intéresse pas trop. Le père des enfants, un petit peu plus,
ouais,
mais vraiment
ouais.
De manière très, très occasionnelle. Moi, non, ça, très franchement, ça m'intéresse pas trop, tout ce qui est jeux, multimédia.
Bon, ben Florence, il va falloir vous y coller, hein, parce que c'est très important. Il va falloir vous y intéresser. En tout cas, merci de nous avoir appelé. On va pas vous garder très très longtemps, malheureusement, parce que la ligne n'est pas très très bonne.
Oui.
Ça grésille un petit peu. Restez-nous fidèles, Florence.
Voilà, merci. Et je voulais aussi en profiter pour vous féliciter pour vos émissions. Je trouve que c'est une radio vraiment très très utile.
Vous êtes adorable. Redites-le-moi encore, j'aime bien. C'est adorable à vous en tout cas. Restez à l'écoute de Parenthèse Radio et rappelez-nous quand vous le souhaitez. En tout cas, vous avez gagné un joli cadeau ce matin.
Très bien, merci beaucoup à vous.
À très bientôt, Florence.
Au revoir.
On poursuit cette discussion donc sur la cyberdépendance et sur les jeux vidéo. Jacques Hainaut, vous qui rencontrez les parents très très régulièrement, est-ce que lorsque vous constatez que les parents sont un petit peu démunis, vous avez une trousse de secours, une espèce de fiche technique pour les aider ?
Bah écoutez, oui, j'ai mon livre, hein, tout simplement. Donc c'est 90 questions sur l'utilisation du téléphone mobile, internet, le jeu vidéo. À quel âge, par exemple, on doit mettre un enfant devant un ordinateur ? Est-ce que le baladeur écouté trop fort risque d'abîmer les oreilles, etc. Donc à chaque fois, il y a un petit contexte pour répondre à la question et puis une fiche technique pour répondre très concrètement à la question avec des outils à mettre en place pour protéger l'enfant éventuellement.
Et est-ce que vous avez
donc
des...
C'est vraiment du concret. Et donc je vois bien effectivement les parents sont très demandeurs de ce type de conseils parce qu'effectivement ils se posent beaucoup de questions. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de la cyberdépendance. Moi le témoignage que je voudrais donner sur la cyberdépendance aux jeux vidéo, d'après les spécialistes que j'ai interrogés, donc par exemple Marc Valeur, qui est le directeur de l'hôpital Marmottan à Paris, qui est spécialisé dans les addictions de tout type et qui a ouvert une consultation réservée à l'addiction aux jeux vidéo. La vraie addiction aux jeux vidéo, hein, c'est quelque chose de très particulier qui concerne beaucoup plus les jeunes adultes que les mineurs, premièrement. Mmh. Ensuite, les mineurs qui sont concernés, encore une fois, d'après les spécialistes que j'ai interviewés, ça ne concerne que les adolescents. Ça ne concerne que des adolescents qui jouent à un certain type de jeux vidéo bien précis, qui sont ce qu'on appelle des jeux vidéo massivement multijoueurs. C'est par exemple World of Warcraft. Donc c'est des jeux où tout le monde peut jouer en ligne. Donc vous avez tout le temps, la partie continue tout le temps, la partie ne s'arrête jamais. Donc c'est très addictif parce que l'enfant se dit, l'adolescent se dit, si j'arrête de jouer, je vais perdre la partie. Donc il y a déjà ça. Ensuite, généralement, ça se passe dans des familles sous tension. Il y a une tension dans la famille parce que les parents sont sur le point de divorcer. Mmh. Où il y a une tension de la part des parents qui sont très exigeants vis-à-vis de l'enfant pour ses résultats scolaires, et l'adolescent plutôt de dire il va faire une sorte de bras d'honneur à ses parents, il va leur dire tu veux que je sois bon à l'école, ben plutôt que d'être bon à l'école, je vais être très très bon dans les jeux vidéo. Voilà. Alors, et pourquoi ça se passe à l'adolescence? Parce que à l'adolescence, on commence à se rendre compte que la vie, elle est parfois un peu vache. Par exemple, à l'adolescence, on a beau très bien préparer ses examens, ses devoirs, etc. On a beau réviser, etc. La veille de l'examen, on dort très mal et on arrive le matin, on est fatigué et on rend une feuille blanche, quoi. Donc, dans la vraie vie, les récompenses ne sont pas forcément proportionnelles aux efforts qu'on a fait. On a beau être, on peut peut-être se trouver le plus beau et le plus riche garçon de la classe et être amoureux de la fille la plus jolie, et bah, la fille de la plus jolie a peut-être trouvé à partir avec celui qu'on trouve le plus moche de la classe.
Ah bon ? Oh bah non, si vous cassez mes illusions maintenant, ça va juste pas être possible.
Il ne serait pas de grandir. Par contre, dans les jeux vidéo, plus vous jouez aux jeux vidéo, plus vous faites des efforts et plus vous êtes valorisé. Donc si vous voulez, pour contrebalancer la réalité un peu vache de la vraie vie, on a tendance parfois à se réfugier à l'adolescence dans les jeux vidéo, en particulier dans les jeux en vidéo massivement multijoueurs.
Oui, tout à fait. C'est la question de l'estime de soi et c'est une vraie protection contre l'échec finalement.
Alors, on va développer cette question juste après la pause. On fait une petite pause sur Parenthèse Radio. Nous parlons des jeux vidéo, nos enfants accros et cyberdépendants. Nous accueillerons tout à l'heure Henri Lebaigne qui est avocat, qui aura sans doute pas mal de choses à nous dire. Si vous avez des questions à poser à nos spécialistes, bien évidemment, ou un témoignage à apporter, vous avez sans doute été confronté à ce type de souci avec votre petit qui ne décolle pas de sa DS. 01 70 62 9000.
Témoignez, réagissez dans Les Petits Loups, 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr. 9h, 11h, Les Petits Loups sur Parenthèse, la seule radio 100% talk famille.
Et nous parlons encore pendant une petite demi-heure sur Parenthèse Radio dans Les Petits Loups de la cyberdépendance. Notre ado est accro aux jeux vidéo. On a un petit peu de mal à le faire décoller de sa PSP. C'est un souci. Comment faire? Comment s'impliquer? Comment se tenir au courant même? Apparemment, ça paraît être les données fondamentales, que les parents se tiennent un petit peu au courant de ce que font leurs enfants sur Internet ou comment jouent-ils avec leurs jeux vidéo. C'est important. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, bien évidemment. Vous connaissez le numéro du standard, 01 70 62 9000.
Libre parole sur Parenthèse, la première radio 100% talk famille. 01 70 62 9000, 01 70 62 9000.
Et nous sommes toujours avec Valérie Seknazi, qui est psychologue à Marseille. Valérie, vous êtes toujours avec nous. Et Jacques Henault, qui est journaliste et qui a écrit plusieurs livres sur la dépendance des enfants et sur la sensibilisation pour les parents. Et nous accueillons autour de cette table Henri Lebaigne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avocat.
Oui, tout à fait.
Et vous avez écrit un article, me dit-on, sur le site internet de l'Agence française pour le jeu vidéo. Oui. Et cet article s'intitule « Donner à caractère personnel, quels renseignements demander à des joueurs mineurs ?» Alors justement, dites-nous en plus sur cet aspect, on va dire peut-être plus juridique qu'addictif.
Alors, en fait, la question est la suivante. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on n'arrête pas de donner des informations aux gens nous concernant. Alors, ça peut être complètement anodin, mais ça peut devenir un petit peu plus problématique. Alors, exemple d'information qu'on donne, d'abord son nom. Surtout quand on va quand on participe à un jeu MMORPG, comme on dit, massivement multijoueur, on attend.
C'est-à-dire, c'est des jeux en ligne, c'est ça?
Ah bon?
Il s'agit de jeux en ligne où on peut jouer à.
Il s'agit de jeux en ligne, tout à fait. Le principe, donc, ce sont des jeux où on joue à plusieurs. Sauf que bien souvent, on est isolé dans sa chambre et on va jouer en ligne avec d'autres joueurs, on va affronter d'autres joueurs. Pas d'ailleurs forcément affronter, on peut s'intégrer dans une espèce de guilde, vous savez. Et en tout cas, on va participer à un jeu en indiquant son nom, son pseudo éventuellement. Et puis, on peut être amené à donner également son adresse, son âge. Tout ça paraît assez anodin, mais il faut savoir que, et c'est, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre, et c'est de bonne guerre, ces données sont très souvent utilisées ensuite dans un but financier.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on va faire de ces données? On va les vendre à des sociétés qui vont les utiliser pour faire de la prospection commerciale. On va essayer de mieux cibler un petit peu les joueurs pour améliorer le produit, mais également, pourquoi pas, pour faire de la publicité en ligne. Alors, c'est pas possible dans tous les jeux, mais c'est quelque chose, un phénomène qui devrait se développer. On va avoir de plus en plus de jeux intégrant des publicités dans leur design.
Ouais.
Et la question, bah, savoir, est-ce que quand on a des joueurs qui sont des mineurs, est-ce qu'on peut leur demander tout et n'importe quoi? Alors, il faut savoir que aux États-Unis, en Angleterre et dans tout le monde anglo-saxon, vous avez un acte, une loi qui interdit de demander des données nominatives, donc qui permettent d'identifier précisément la personne, en dessous de l'âge de 13 ans, sauf accord express de la personne responsable, donc des parents en général. Et si jamais on recueille quand même des données auprès de mineurs sans l'autorisation des parents, les sanctions peuvent être très très lourdes. Hein. Les tribunaux, en particulier les tribunaux américains, ne plaisantent pas avec ça. En France, vous n'avez pas l'équivalent, vous n'avez pas ce seuil de 13 ans, par exemple.
Oui.
Donc, il faut être extrêmement vigilant et s'assurer que lorsqu'on demande des données, donc comme un nom, par exemple, ces données n'ont pas ensuite à être utilisées au détriment de l'enfant.
Oh, mais c'est très très compliqué, j'imagine. Jacques Henault, peut-être avant de partir, vous avez sans doute un commentaire à faire.
Oui, alors pour les jeux massivement multijoueurs, il faut savoir que tout ce qui est jeux massivement multijoueurs en ligne du style World of Warcraft, normalement la classification PEGI, hein, la classification qui a été mise en place par les éditeurs de jeux vidéo au niveau européen, recommande que ces jeux ne soient pas joués pour les moins de 12 ans. Ce sont des jeux qui sont réservés normalement aux plus de 12 ans. Donc déjà, ça veut dire que ce sont des enfants un peu plus âgés, pratiquement des préadolescents. Ceci étant dit, vous avez beaucoup de jeux massivement multijoueurs, très grand public, et pour les jeunes enfants du style Dofus, qui ne disent pas forcément qu'ils sont réservés aux plus de 12 ans. Donc, premier constat. Deuxième constat sur l'utilisation des données. On n'a pas besoin d'aller jusque dans ces jeux massivement multijoueurs pour avoir des problèmes de publicité. Dans la plupart des jeux vidéo maintenant que vous achetez sous forme de DVD dans le commerce, vous avez des placements de produits. C'est-à-dire vous avez des marques qui ont payé pour que ça soit leur produit, leur voiture, si c'est un jeu de rallye, de conduite, etc., de course, pour que ça soit leur produit qui apparaisse là-dedans. Ensuite, c'est vrai que la législation française n'est pas encore totalement au point pour la protection des mineurs quant à l'utilisation de leurs données personnelles sur Internet. C'est un vrai problème. Donc il faut que les parents soient très attentifs à ça. Et encore une fois, la meilleure façon pour être attentif à ça, c'est que l'écran soit dans la pièce commune et que les parents soient le plus possible à côté de l'enfant.
Oui, ça c'est vraiment un conseil de base et très très simple. Hein. Alors là-dessus, on peut...
Mais c'est vrai, alors moi je suis très sensible au problème de l'utilisation des nominatifs, parce que vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'ai écrit des livres sur les enfants et les écrans, mais j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Tous fichés, sur justement le fichage systématique des internautes. C'est tout un problème, savoir, parce qu'en même temps, on a besoin, l'idéal, ce serait qu'on sache quel est l'enfant qui est devant l'ordinateur pour pouvoir aussi le protéger.
Mmh.
Et pour savoir que c'est un enfant qui est devant un ordinateur, on a besoin de savoir son âge et éventuellement d'avoir son nom. Donc le juste milieu à trouver entre la protection de l'enfant vis-à-vis des contenus indésirables et puis vis-à-vis de la protection de la vie privée est extrêmement compliqué. Donc c'est un sujet dont on n'a pas fini de débattre parce qu'il est compliqué techniquement du point de vue juridique et aussi du point de vue humain.
Et puis alors on se rend bien compte, hein, on en parlait, que les parents sont un peu à la traîne, mais que le législateur est également à la traîne, parce que si on étend un petit peu la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui aux jeux vidéo à Facebook par exemple, on se rend compte vraiment que certains ados là pour le coup se livrent totalement et que là
alors,
aussi
voilà. Oui, alors ça c'est encore un autre problème sur c'est l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants et en particulier par les adolescents et les préadolescents, parce que les adolescents ont une tendance naturelle à être un petit peu exhibitionnistes. Ils vont avoir tendance à mettre beaucoup de photos d'eux sur ces réseaux sociaux, beaucoup de photos qu'ils ont prises au cours de soirées plus ou moins arrosées, donc plus ou moins, ce qui veut dire qu'on les voit dans des situations parfois pas très sympas. Ces photos, si les adolescents ne font pas attention, ces photos vont être accessibles à tout le monde, même en dehors de Facebook. Donc ça veut dire que ces photos, si elles restent, elles seront peut-être accessibles plus tard à un recruteur, à quelqu'un qui va vouloir recruter ces adolescents devenus des adultes, devenus des jeunes professionnels. Et donc le recruteur qui va tomber sur des photos d'adolescents ayant participé à des beuveries, il va un peu tiquer. Donc il faut faire extrêmement attention. Normalement, maintenant sur les réseaux sociaux, c'est assez bien fait. Si on paramètre bien son profil, profil, donc si on fait bien attention à qui a accès à ses photos, à son profil, etc., on peut faire en sorte que les photos, les documents les plus personnels ne soient accessibles qu'à ses vrais amis qui sont sur ses réseaux sociaux. Donc il faut bien faire attention, c'est un vaste, encore là aussi, un problème important. Et comme vous le disiez, malheureusement, je vais devoir vous laisser pour préparer mon intervention de ce soir à Roubaix devant des parents.
Très bien, mais écoutez, bon courage, soyez efficace.
Merci. Merci.
À très bientôt, Jacques Henault. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir.
Au revoir. Henri Leben, on s'aperçoit, comme je le disais tout à l'heure, hein, que le législateur est un petit peu à la traîne,
oui,
face à, notamment, on parlait de Facebook, hein, de ses réseaux sociaux, etc. C'est ce qui a motivé la rédaction de votre article, ou ce centre d'intérêt apparemment prononcé pour vous sur les données à caractère personnel?
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui revient constamment dans l'actualité. Hein. Tout le monde aujourd'hui est confronté à ce type de problématique. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Monsieur Henault. Aujourd'hui, on est tous fichés. Mais on est tous fichés, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire, je prends pas position sur un vrai débat de société, mais parfois. Bah parfois c'est nécessaire. Lorsque, de manière très simple, hein, si vous commandez par exemple des produits sur Internet, il faut bien que vous donniez votre adresse pour qu'on vous livre. Bah, ça c'est une donnée à caractère personnel, elle permet de vous identifier. Et le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas nécessaire de protéger et de vraiment cerner très très bien l'application de ces données? Alors il ne faut pas non plus exagérer. La France n'est peut-être pas à la pointe du combat, mais malgré tout, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données personnelles. Hein. Vous avez une loi, la loi informatique et liberté, qui date de 1978, donc c'est déjà ancien. La CNIL, qui est donc chargée de, qui est ce qu'on appelle le gendarme, hein, des données personnelles, est très très active et fait de plus en plus de contrôles. Mais il est vrai que parfois il y a des débats de société, des débats idéologiques qui font que les choses n'avancent peut-être pas assez vite ou n'avancent pas forcément dans le sens que la CNIL souhaiterait. Donc on se retrouve dans une situation effectivement où lorsque vous avez une industrie comme celle du jeu vidéo qui s'adresse énormément à un public jeune, vous vous rendez compte tout d'un coup que vous avez des centaines de milliers de données qui transitent dans ce marché, et qu'on ne sait pas forcément ce qu'elles deviennent. Et donc il serait peut-être temps effectivement de s'y intéresser.
D'accord. Nous allons faire une petite pause dans cette émission, c'est la dernier quart d'heure où nous parlons de cyberdépendance avec nos enfants dans Les Petits Loups sur Parenthèse Radio, l'unique radio talk 100% famille. Un petit coup de fil, 01 70 62 9000 pour venir parler de ce problème avec nous autour de cette table.
Les Petits Loups sur Parenthèse, l'unique radio 100% talk famille. 9h, 11h, Les Petits Loups sur Parenthèse, la seule radio 100% talk famille.
10h46 sur Parenthèse Radio, nous parlons ce matin dans Les Petits Loups encore pendant un peu moins d'un quart d'heure, hein, de cyberdépendance. Mon enfant de moins de 10 ans est accro à sa PSP. Comment faire, comment l'aider à se détacher, à aller faire un peu de vélo, à jouer à la pâte à modeler? Tiens, bonne idée, c'est une idée d'Alexandra qui habite en Seine-et-Marne, qui nous l'a donné tout à l'heure. Bonne idée. Posez-nous vos questions, n'hésitez pas, témoignez. 01 70 62 9000, vous le savez, le standard de Parenthèse Radio vous est ouvert.
Une anecdote, un témoignage, 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr.
Et nous sommes toujours avec Valérie Seknazi qui est psychologue à Marseille. Vous êtes toujours là, Valérie?
Oui, je suis là.
Et Henri Leben qui est avocat. J'aimerais, Valérie, que vous puissiez peut-être nous raconter ce que vous vivez au quotidien dans votre consultation. Vous nous expliquiez tout à l'heure que quand même, hein, il fallait rester un petit peu optimiste et que les enfants addicts et accros n'étaient pas si nombreux que cela. Moi, ce que je retiens de notre discussion de presque 2 heures maintenant sur le sujet, c'est qu'effectivement, hein, voilà, il faut absolument sensibiliser les parents et leur dire de s'intéresser évidemment aux pratiques cyber de leurs enfants, et de s'y intéresser techniquement, hein, c'est-à-dire que d'y aller plus loin et de leur fixer des limites. Ces limites, par exemple, de jeux par jour, vous les fixeriez à combien, pour être concret, Valérie?
Oh, écoutez, moi, il y a une patiente c'était assez sympa, elle donnait des temps d'écran. Alors qu'il disait écran, on disait ordi, télé, console de jeu. Et bon, Alors la limite, c'est propre à chacun. J'ai du mal à mais bon, c'est, je veux dire, il faut pas mettre de côté les temps de bain, les temps de parole, les temps de devoir. Voilà, c'est vraiment faire attention à ce dosage-là et peut-être voilà, peut-être un peu plus quand il n'y a pas école le lendemain. Mmh. Voilà, essayer de doser selon la personne, c'est au cas par cas.
C'est au cas par cas. Alors justement, Laurence qui habite Marignane, qui est pas très loin de chez vous, nous appelle, elle nous dit qu'elle est maman d'un garçon de 8 ans et d'une fille de 4 ans, et son fils de 9 ans est littéralement accro à tout ce qui est écran, elle est toujours en train de se battre. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler.
Oui, je voudrais faire un petit message ce matin, mais j'ai marqué Lolo au lieu de Laurence.
Mais je ne suis pas Laurence Perrault. je ne suis pas rousse.
Non.
Alors, vous avez 35 ans, vous habitez Marignane, et vous nous dites que vous êtes tout le temps en train de vous battre avec votre garçon de 9 ans qui est accro à tout ce qui est écran. Ça se passe comment à la maison, Laurence?
Oui, il y a un raisonnement.
Oui.
Quand il était petit, il était très malade, donc il était gardé par ma belle-mère.
Oui.
Et il était habitué à l'écran. Ouh.
Vous avez une radio allumée derrière vous ou
non, du tout, justement.
Vous êtes sur un téléphone portable, peut-être?
Voilà, c'est ça.
D'accord, je vous entends pas très très bien, donc on va essayer de faire court. Dites-nous, donc, qu'il était malade
Et donc, je suis toujours en train de m'occuper de me battre.
Oui. D'accord. Écoutez, on va essayer de vous rappeler, Laurent, si c'est possible. Hein, on va essayer de vous rappeler et en même temps répondre grosso modo à votre question. Comment essayer de faire que les tensions soient moins importantes à la maison, c'est ça?
Oui. Et puis disons que
on va vous rappeler.
Console aussi,
D'accord. On va vous rappeler, Laurent. Je suis désolé, il faut qu'on vous rappelle. Là, c'est pas possible. Valérie, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Laurence?
Le conseil, c'est encore une fois, c'est la limite de temps, qu'elle culpabilise pas, de frustrer l'enfant, c'est assez difficile pour les parents parce qu'ils ont l'impression de pas être aimables. Et donc voilà, c'est vraiment la difficulté de confronter l'enfant à sa frustration.
Et puis alors, il faut le dire, ce qui est entre nous, moi qui ai deux enfants et qui ai 38 ans, frustrer ses enfants, c'est pas très politiquement correct, quoi. Enfin, c'est difficile, c'est pas dans notre culture de nous, parents des années 70.
Mais oui, mais vous savez, c'est pas si différent de dans les années 70, il y avait beaucoup d'enfants qui s'isolaient dans la lecture.
Ouais, oui.
Alors, c'est sûr que la lecture est plus tolérée et socialement plus valorisée, mais pourtant, on a vu beaucoup d'enfants qui s'isolaient avec un bouquin, et là aussi, mais voilà, c'était plus socialement valorisé. Mais maintenant, oui, c'est frustré. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est différent de la punition. Et limiter l'utilisation, c'est pas non plus anéantir le jeu, anéantir le plaisir. C'est juste limiter.
Et ça fait partie du rôle éducatif des parents.
Bien évidemment, c'est vrai que c'est difficile de dire non. C'est assez simple de dire à son gamin, va jouer, on a la paix. Nous-mêmes, nous pouvons profiter de regarder la télé ou pourquoi pas jouer à des jeux. Mais je pense que c'est le rôle du parent ça reste dans l'éducation des parents.
Henri Le Ben, vous envoyez vous des parents, j'imagine?
Pas tant que ça, enfin moi-même je suis père de deux enfants, mais...
Ils ont quel âge vos enfants, Henri Le Ben?
Ils ont 3 ans et demi, bientôt 4 et 15 mois, donc pour l'instant alors par contre, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment pour moi je travaille beaucoup avec des sociétés qui sont spécialisées dans le jeu vidéo, donc je me suis naturellement posé la question de savoir si j'allais ramener à la maison tout ce que je pouvais obtenir comme jeu, etc. Mais bon, ça c'est pas vraiment un problème juridique. Juridiquement, j'ai envie de dire, la seule vraie question qui pour moi se poserait, c'est est-ce que on peut essayer de faire interdire des jeux qui représenteraient un danger pour des enfants. Mais parce que psychologiquement, on considérerait que c'est trop addictif pour les enfants, ou il y a trop de violence, etc. Mais ça, c'est déjà un débat complètement à part entière, j'ai envie de dire.
Et vous êtes saisi, vous, parce qu'il n'y a quasiment aucun recours possible, enfin, sur cette idée de protection de données personnelles sur lesquelles vous travaillez, À part la CNIL, il y a très peu de recours possibles.
Alors, il y a deux choses différentes, hein, bien différentes. Il y a d'un côté la question des données personnelles, mais là, j'ai envie de dire que je pense que le contentieux est devant nous. Mmh. Et puis, vous avez la question de la censure éventuelle d'un jeu. Ça s'est posé l'année dernière avec un... Bon, on peut le citer puisque c'était dans tous les médias, oui, avec le jeu Manhunt.
Comment vous dites ?
Manhunt, chasse à l'homme.
Ah d'accord, ok.
Qui a été interdit en fait au Royaume-Uni.
Oui, exact, oui, oui.
Et en France, il a été autorisé, mais interdit à la vente au moins de 18 ans.
Oui, c'est très violent, oui.
Et il n'est pas impossible. Aujourd'hui, on a ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, on a maintenant les outils qui nous permettraient, disons, d'essayer de faire interdire un jeu si on estime que le message véhiculé est beaucoup trop violent.
Oui, d'accord.
En particulier, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur peut désormais intervenir face à un jeu comme il peut, comme il pouvait toujours le faire vis-à-vis d'un film. Hein, en le classant interdit au moins de 18 ans, de facto, ça limite extrêmement sa commercialisation.
Oui.
Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur peut faire la même chose pour les jeux vidéo, et je suppose que dans les mois, dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'associations de familles ou de consommateurs qui essaieront de faire interdire tel ou tel jeu à tort ou à raison. Encore une fois, là, c'est pas à moi de prendre parti là-dessus, parce qu'elles estimeront que ça représente potentiellement un danger pour les enfants.
Alors ça, c'est très intéressant, effectivement, de pouvoir éventuellement avoir cette voie de recours, sachant que là aussi, il faut pas l'oublier, il y a des pictogrammes et les parents doivent être très très vigilants à ce qui est écrit sur la jaquette du jeu pour éviter tout souci. Et on en revient encore une fois à la base de la base, c'est-à-dire évidemment l'importance des parents dans cette structuration et dans l'évolution des enfants face au jeu. Nous avons à l'instant, on va prendre tout de suite Edith qui vient de nous appeler. Edith, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous habitez en Seine-et-Marne.
Oui.
Merci de nous appeler.
Oui, j'étais dans ma voiture. Je pouvais pas vous appeler plus tôt parce que j'avais pas mon portable. Mais
alors, il nous reste vraiment quelques
ouais,
minutes.
Quelques
Dites-nous
secondes.
Tout. Que se passe-t-il, Edith?
Moi, c'est quand vous avez dit que vous aviez deux enfants et que c'était difficile de frustrer ses enfants parce que on se sentait un peu mal aimé, quoi.
Bah oui, c'est pas politiquement correct aujourd'hui dans l'éducation.
Voilà.
Ouais.
Ça me fait bondir parce que moi, je suis en plein dedans. Moi, j'ai un fils qui va avoir 13 ans,
d'accord,
une fille qui va avoir 6 ans.
Ouais.
Donc, moi, je pense, je suis un peu ancienne école, hein. Je suis un petit peu plus jeune que vous, mais je suis old school. Et pour moi, de la frustration naît le plaisir.
D'accord.
Intéressant. Valérie Seknazi, comment on peut interpréter ce que nous dit Edith ?
Ben, je suis tout à fait d'accord. C'est le principe de plaisir et l'enfant ne pourra que prendre plus de plaisir s'il est frustré, s'il est limité dans son désir.
Mmh.
Et je pense que c'est essentiel, vraiment.
Alors,
pour moi, il y a une chanson qui à chaque fois, quand mon fils, des fois, il me dit « Ouais, mais t'es pas gentil », il me l'a dit petit. Il avait peut-être 5-6 ans, j'ai dit, mais moi, je suis pas là pour être gentille, je suis là pour être ta mère.
Tout à fait.
Waouh.
C'est très bien.
Et je l'ai dit à des copines.
J'aurais pas pu mieux dire.
C'est vrai.
Je suis pas là pour être gentille. Gentille, c'est grand-maman, c'est sa petite sœur, c'est, moi, je suis gentille, mais je suis sa mère, je suis là pour lui donner des bases d'éducation, je suis pas là pour être gentille.
Bah,
et
peu,
moi,
quand
il y a une
même,
chanson
non
pour ça, et je lui mettais l'envie de Johnny Hallyday.
L'envie d'avoir envie, c'est ça ?
Ouais, parce que je dis, tu vois, si je te donne tout trop avant, tu sauras même plus ce qui te fait plaisir.
Et votre fils de 13 ans, il est addict aux jeux vidéo un peu ?
Alors là, il n'y a pas de danger.
Mais Edith, laissez-le jouer un peu quand même, ce petit
pauvre. Non, mais il joue, il joue au rugby, il a un super trampoline, il joue avec sa sœur, il fait du vélo, voilà. Il a eu, on ne va pas citer la marque, hein, vous savez, c'est...
On peut, hein.
C'était au moins 3 marques, la PlayStation.
Ouais.
Donc, il a eu ça. Et moi, on avait beau cadrer, c'était pas n'importe quel jeu, c'était plutôt des jeux éducatifs, tout ça, machin. Et malgré tout, il a changé de comportement. Et moi, je l'avais dit, j'étais contre. Hein. Au départ, je voulais pas qu'il l'aimait. Il travaillait tellement bien à l'école.
Et changer de comportement, c'est-à-dire
Ben, il devait